Quand on me demande qu'est-ce que je pense de la censure, je me demande censurer quoi. Évidemment, je me demande aussi qui doit décider d'interdire ou de ne pas interdire, de censurer ou de ne pas censurer. Qui est juge de cela? Au fond, l'idéal, ce serait que chacun et chacune se sente vraiment responsable de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Ça serait si simple si chaque personne, avant de parler ou d'agir, se demandait si ses paroles ou ses actes peuvent blesser, faire mal, inciter à la haine, à l'intolérance, au mépris, à la vengeance. Et dans le meilleur des mondes, on se dirait on n'a aucunement besoin de censure puisque les personnes vont réfléchir avant de parler, vont se demander quel peut être l'impact de leurs paroles ou de leurs gestes. Évidemment, dans la vraie vie, ça ne se passe pas exactement comme ça. Des gens, évidemment convaincus d'avoir raison, peuvent tenir des propos extrêmement haineux ou hostiles à l'égard de certaines catégories de la population. Alors, évidemment, il y a les exemples faciles qui nous viennent en tête. Je vais en apporter seulement quelques-uns. Je vais clairement nommer des gens. Alors, nous avons un animateur, nous en avons même quelques-uns, mais nous en avons un en particulier à la radio qui s'appelle Gilles Proulx, qui tient régulièrement des propos que moi, je qualifierais de vraiment haineux à l'égard des pauvres et des assistés sociaux. Et il ne faut pas penser que quand un individu comme ça apporte plein de propos remplis de préjugés et extrêmement blessants vis-à-vis des assistés sociaux, il ne faut pas penser que ça n'a aucune conséquence. Et une des conséquences, à mon avis, les plus concrètes, eh bien, on le voit en ce moment, parce qu'on a un gouvernement du Québec qui va bientôt faire adopter une loi qui est une réforme de la sécurité du revenu. Et cette réforme, dont je vous fais grâce, s'appuie effectivement sur tous les préjugés populaires à l'égard de ces personnes-là. Donc, quand Gilles Proulx parle, et d'autres, il y a des conséquences. Dernièrement, il y a un animateur de radio, toujours à Québec, qui a lancé un concours, c'était quelques jours avant Pâques et avant le Vendredi Saint. Alors lui, il a lancé le concours du Vendredi Saint, S-E-I-N. Je me souviens plus exactement à quoi les auditeurs et auditrices étaient conviés, mais le premier prix, c'était des implants mammaires. Vous allez me dire, c'est juste ridicule. C'est vrai, c'est juste ridicule. Sauf qu'un certain nombre de femmes à Québec, entre autres, ont réagi vigoureusement et ont toujours la même histoire, porter plainte, ça ne changera rien, mais on porte plainte quand même, en disant, vous savez, c'est pas innocent cette question des implants mammaires, ça a causé pas mal de problèmes de santé très graves à des centaines et des milliers de femmes, comment on peut faire pour traiter ça tellement à la légère? J'en profite pour dire en passant que, c'est pas tout à fait innocent si je parlerai pas que des femmes, mais je vais en parler. En passant, je dis comme ça que, dans notre société, il m'apparaît beaucoup plus clair qu'on n'a pas le droit d'être raciste, et remarquez bien que je suis complètement d'accord, hein? Mais il m'apparaît moins clair qu'on n'a pas le droit d'être sexiste, en passant. Un autre exemple que je pourrais citer, c'est en Ontario, le premier ministre Mike Harris, dernièrement, a coupé une allocation aux femmes assistées sociales lorsqu'elles sont enceintes, en disant que c'était bien mieux comme ça, ils n'iraient pas la boire. Je vous laisse imaginer ce que ça renforce aussi comme préjugé populaire. Lui, il n'en est pas à son premier commentaire. À mon avis, toutes ces personnes, ces partis, distillent vraiment l'ignorance, premièrement, les préjugés, le mépris et la peur de la différence. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres exemples, mais pour moi, la question de la peur de la différence est souvent au centre des propos méprisants, haineux, injustes vis-à-vis d'autres personnes, parce que leur seul tort, c'est de ne pas vivre selon la norme. Mais je voudrais vous soumettre aussi comme point de vue qu'il y a des gens dits respectables, parfaitement respectables, avec quelques guillemets, qui distillent, à mon avis, des idées aussi très lourdes de conséquences. Et j'ai l'impression que personne ne songerait à leur interdire la parole ou l'accès aux médias d'information avec les idées qu'ils défendent. Par exemple, lorsque le pape dit aux Africains que le port du condom, c'est un péché mortel, et que ce faisant, il condamne bon nombre de populations africaines à continuer de souffrir du sida, qui est absolument épidémique dans certains pays d'Afrique, personnellement, ça m'apparaît assez criminel. Quand ce même pape interdit l'avortement aux femmes bosniaques qui, en grand nombre, ont été violées, il m'apparaît aussi qu'on cause des problèmes importants chez une partie de la population et personnellement, je trouve ça extrêmement dommageable.
Je dirais d'emblée que tout pouvoir est assis, repose, est adossé à un jeu d'étouffement du discours, à un jeu d'étouffement de la parole, de l'émergence de discours chez ceux-là qui sont brimés, qui sont brisés, qui sont cassés. Donc la censure est une constante et comme data historique. En même temps que je lance cet énoncé, je dirais que la lutte contre elle, la dénonciation de la censure, la tentative incessante de la casser, de l'éjecter, de la désamorcer, doit être une visée et incessante et doit être le fait d'un combat et incessant. Vous parliez tout à l'heure de la pertinence qu'il y a à dénoncer ou du fait qu'il soit urgent de dénoncer toute censure quand, de notre côté, certains éléments, certains porteurs de parole et véhiculent un discours qui, de par son aberration, par son côté et négateur, de parce qu'il véhicule de discriminatoire et représente un scandale à l'état brut, représente une insulte et face à tous ceux qui sont quotidiennement blessés historiquement et représente une blessure face à la mémoire aussi et de ceux qu'on a phagocytés, qu'on a étouffés et que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas oublier. Alors, est-ce qu'il faut censurer, et il dit Monsieur Prou, non. Il faut questionner un système qui fait en sorte que leur discours puisse être mis en évidence et qui puisse être suscité, qui puisse être entendu. Il faut se demander ce que c'est qu'un espace, je veux dire, qui est, non pas autorise une telle parole, mais fait qu'une telle parole puisse avoir écho, ne retombe pas d'elle-même, ne se noie pas dans son ridicule, dans son insuffisance, dans sa néatisation. L'une des modalités, une des voies de fonctionnement des systèmes dans lesquels nous sommes placés passe par la stimulation, non seulement la stimulation incessante et de discours multiples, mais par la stimulation de discours qui doivent se donner comme éclatés et comme multiples, comme à l'intérieur d'un pluralisme qui autorise la juxtaposition des positions contraires. On appelle les libres opinions. Et ce système-là, et ce qu'il y a de grave, c'est pas que l'on puisse tout se dire ou que l'on puisse tout y dire. C'est que quoi que l'on dise, ces paroles-là ne portent plus et sont comme vidées de leur substance. Donc il faut se méfier et du fait qu'en apparence, dans certains espaces des formations sociales, du centre des formations sociales, comme en France par exemple, au Canada ou aux États-Unis, que l'on puisse apparemment, si l'on accepte certains discours outranciers, caricaturaux, genre Le Pen par exemple, ou à la limite Prou par exemple, que l'on puisse à peu près tout énoncer. Et ce qu'il y a de grave, c'est que les énoncés et les plus percutants, les plus éloquents, les plus porteurs de promesses sont noyés et dans l'ensemble. Parce que c'est cette culture de l'ensemble-là même qui étouffe et le vital, l'essentiel.
Moi, je ferais plus référence au Québec parce que je trouve paradoxal tout ce qui se passe ici, par exemple, avec les réformes et tout, et les lois gouvernementales, par exemple, pour contrer les actions syndicales, etc. Ça, c'est non seulement de la censure, c'est de la répression et du chantage. Ça va plus loin parce qu'on ne peut plus s'exprimer. Si on n'est pas d'accord avec un gouvernement, on ne peut pas s'exprimer. Et le déficit cerveau n'est plus un dogme, c'est plus qu'un dogme, c'est une tuerie, dans le sens que ça anéantit toute capacité de réponse de la population. Non seulement par le déficit cerveau, je pense que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus global que ça, parce que tout ça, c'est en lien avec le néolibéralisme. On voit maintenant toutes ces fusions d'entreprises, de banques et tout ça. Ici, on voit la fusion d'hôpitaux, d'organismes, tout devient méga. Tout est plus contrôlable. Donc, nous, les individus, nous devenons aussi contrôlables.
Alors, faut-il interdire? J'aurais tendance à dire le moins possible. Mais je ne suis pas capable de dire non à 100%. Il y a peut-être quand même certaines limites. Le problème, c'est que si vous me demandez lesquelles, il va falloir que ça soit pour moi très évident, très clair. Je ne sais même pas si on devrait interdire des livres qui propagent la haine, parce qu'à ce moment-là, comment je dirais, où est-ce qu'on va tracer la ligne? Mais d'un autre côté, est-ce qu'on aurait dû empêcher des animateurs de radio appelés à la haine, à la vengeance et même à tuer sur les ondes de Radio Mille Collines au Rwanda? Je serais portée à dire oui, on aurait dû l'interdire. On n'a pas le droit d'appeler à tuer sur des ondes de radio. Mais au-delà de ça, je serais portée à dire « je préfère que le débat se fasse ».
Non, pour moi, il ne devrait jamais avoir de censure nulle part, là, que ce soit au Québec ou ailleurs, je vois pas ce que ça peut faire. Là. Une censure, en général, c'est un mot qui ne devrait pas exister.
Moi, je suis quand même en faveur de la liberté de presse.
Ça dépend.
Surtout vers les enfants.
S'il y a de la place pour la censure au Québec.
Moi, je dirais que dès le moment qu'il y a de la censure, il n'y en a plus de démocratie.
Sans aucun doute, la liberté d'expression... prédomine sur la censure.
Naturellement, la liberté de presse est importante.
Je veux dire, si t'aimes pas un animateur de radio qui dit des conneries à la journée longue, tu changes le poste simplement.
Pour que les gens sachent ce qu'il y avait dans la tête du clerc.
Je pense que la population a le droit de savoir qu'est-ce que c'était en dessous de ça.
Puis maintenant, mais il y a souvent des fausses censures.
Si on parle, nous courons des risques.